Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour ce culte. Voilà. Et je voudrais vous inviter à lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens un passage que j'aime bien lire au début d'une année. Philippiens, chapitre 1, les versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Voilà un texte qui regarde vers le passé. Et Paul manifeste, exprime sa joie de tout ce qui s'est passé chez les Philippiens avant, de la part qu'ils prennent à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul voit les choses qui marchent. Paul voit ce que Dieu a fait déjà. Et il est heureux de cela. Et je pense qu'on a besoin de moments comme ça où on regarde derrière et on est heureux de ce que Dieu nous a donné de vivre. Regardez en arrière, là, regardez à ce que Dieu a fait dans le passé, dans nos vies, nous aide à regarder en avant. Il y a comme une trajectoire, une cohérence dans l'œuvre de Dieu, dans nos vies, en tant que communauté, mais aussi en tant que personne. Et cette cohérence, elle se voit quand on regarde l'ensemble, et d'abord tout ce que Dieu a déjà fait. Et puis, Daniel nous a fait entrer dans l'espérance. L'apôtre nous donne un motif d'espérance fondamental. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Lui le fera. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de nous, mais pas que de nous. Le projet du Christ se poursuit dans nos vies, avec des hauts et des bas de notre vie spirituelle, de nos choix de vie, etc. Mais le Christ a le désir et la capacité de poursuivre son œuvre en nous jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est bon de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, je reviens au passé, de se rappeler comment Dieu nous a rencontrés, comment nous avons découvert l'Évangile, les personnes qui ont été des témoins pour nous, des moments forts de nos existences, parce que nous pouvons, cela nous aide à nous nourrir. Nous avons lu, j'imagine, les uns les autres, les textes de la Nativité, et nous voyons Marie repasser ces choses dans son cœur et y réfléchissait. Et il y a une manière de se nourrir de ce que Dieu a fait dans le passé. C'est pour ça que Dieu a institué des fêtes, à commencer par la Pâque, où Israël se rappelle, et aussi que Jésus a institué la Sainte Cène, parce que cette œuvre de Dieu, elle n'est pas une œuvre juste du passé, c'est une œuvre qui se poursuit aujourd'hui dans nos vies. Et il est important de voir comment l'œuvre de Dieu fait une histoire en nous. Notre existence n'est pas faite de petits morceaux plus ou moins bien collés ensemble, entre le travail, la famille, les déménagements et je ne sais pas quoi d'autre encore. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, il y a quelque chose d'une histoire qui se construit et qu'il est important d'en avoir conscience. Et c'est bien de regarder avant. Regarder dans le passé, c'est aussi important parce qu'il peut y avoir des moments, enfin il y a toujours des moments dans nos vies où on a besoin, où on se rend compte, que quelque chose a commencé à pas bien tourner. On a besoin de se recentrer. Le Nouveau Testament, et la Bible en général, montre différentes façons dont la foi dérive dans les églises ou chez les chrétiens. Nous avons les Galates, ils sont entrés dans un système clos, un système fermé, un système légaliste où on sait exactement ce qu'il faut faire et où on tire sa satisfaction d'avoir obéi à la loi. C'est une manière de dériver dans notre démarche de foi. On cherche son assurance dans le fait qu'on fait les bonnes choses, au lieu de retrouver toujours à nouveau son assurance dans l'amour de Dieu pour nous. Une autre manière, très différente, dont parle Jésus à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2, c'est de perdre son premier amour. La foi devient quelque chose qui passe beaucoup par l'intelligence, la tête, les idées, la doctrine. Et puis on est de moins en moins dans les émotions, dans les sentiments. Et donc, ça devient froid quelque part. Une autre manière, c'est les compromis. Clocher des deux côtés, comme les Israélites en 1 Roi 18, là, quand Élie leur dit « Pourquoi clochez-vous des deux ?» Ou de devenir tiède, vous voyez, c'est le compromis. On devient tiède. Et on peut être comme l'église de Sardes, à la fois en tant qu'église, mais aussi individuellement. L'apparence est là, mais il ne reste plus grand-chose du fond. À l'église de Sardes, Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivante, mais tu es mort. Et on pourrait trouver d'autres manières dont la foi, dont notre manière de vivre la foi peut prendre des chemins dérivés. Je trouvais intéressant que Daniel nous propose, je ne savais pas ce qu'il allait faire, mais nous propose de lire le psaume 51, qui est ce moment où David se rend compte qu'il a pris un faux chemin et il revient dans le bon chemin par la repentance. Et donc c'est le moment de se poser des questions comme ça, me semble-t-il, la fin d'année, le début d'une année, pour se poser la question sur notre chemin. Aujourd'hui, comment nous situons-nous dans la dynamique? Jésus veut continuer son œuvre jusqu'au bout. Mais cette œuvre va dépendre aussi de notre investissement, de notre engagement. Et notre développement spirituel, nos progrès spirituels, dépendent aussi de notre investissement, de notre désir d'avancer avec lui. Rester dans une dynamique, ce n'est pas très évident. On a l'exemple de l'apôtre Paul, toujours dans Philippiens, au chapitre 3, qui dit à un moment, je ne regarde pas en arrière, je regarde en avant pour avancer et gagner le prix de la course. Paul donne l'exemple d'une dynamique extrêmement intéressante. Lui, l'apôtre, qui est vers la fin de sa vie, il écrit Philippiens, il est en prison et on pense qu'il va mourir bientôt. Eh bien, quand il écrit, il est en plein dans « je veux avancer encore ». Je cours pour avancer. C'est très intéressant, alors, on pourrait imaginer qu'avec tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a vécu, on pourrait imaginer qu'il en a assez, pas du tout. Il est dans cette dynamique de gagner le Christ. Et c'est la question de savoir où, finalement, en début d'année, où est cette dynamique en nous, comment nous la cultivons, comment nous la maintenons. Premier point pour la maintenir, c'est évidemment de garder les yeux fixés sur Jésus et sur ce que Jésus est et fait pour nous. L'amour de Jésus n'était pas seulement dans le passé quand il nous a sauvés, quand nous sommes convertis, mais il se poursuit pour nous aujourd'hui, nous le savons. Sa fidélité ne faiblit pas. Son amour ne faiblit pas. Et en même temps, comme je l'ai dit, il nous respecte et il nous invite à participer. Il nous invite. Et si nous ne répondons pas positivement, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Toujours dans l'Apocalypse, Jésus dit à une église, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit ça à des chrétiens, il dit pas ça à des inconvertis. Et si on ouvre la porte, il entre. Si on n'ouvre pas la porte, il reste à la porte. Parce que la relation que Jésus a avec nous, c'est une relation vivante, où chacun doit y mettre du sien, chacun doit participer, et de manière intentionnelle, inviter le Christ toujours à nous, à faire son œuvre en nous. Le Seigneur ne va pas travailler en nous si on ne le veut pas, si on ne le désire pas, si on ne le demande pas. La foi chrétienne est une foi intentionnelle, c'est une foi active, c'est une foi proactive. On ne peut pas juste dire Dieu nous a sauvés, c'est bien, on chante dimanche matin et tout va bien. Il y a plus que ça, beaucoup plus que ça. Donc, les yeux fixés sur Jésus, qui veut continuer à avancer avec nous et qui est à la porte et qui frappe et qui nous invite à lui ouvrir et à marcher avec lui pour aller plus loin. Première chose. Après, il y a cette autre chose dont je vais un peu parler, c'est avons-nous besoin de nous recentrer, de nous repentir sur un point ou un autre ? Encore une fois, c'est pas un, il peut y avoir des choses scandaleuses comme dans la vie de David, qui a pris la femme d'un autre et a fait tuer le mari gênant. Mais d'une manière générale, c'est logique, c'est naturel, c'est humain, dans le mauvais sens du terme, que nous dérivions. Et en général, on ne s'en rend pas compte quand ça commence. On s'en rend compte quand on commence à être vraiment un peu loin. Quoi. Donc régulièrement, en tout cas c'est mon expérience, régulièrement, nous avons besoin de nous resituer, de nous recentrer derrière Jésus et de nous recentrer comme ses disciples. Et en fait, c'est le thème général, on pourrait dire, des lettres aux églises de l'Apocalypse, où, pratiquement à toutes les églises, Jésus invite à un recentrage autour de lui et de revenir de certaines choses, qui ne sont pas les mêmes chez tout le monde, évidemment, de revenir pour se recentrer sur lui. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'humiliant ou de scandaleux, c'est notre réalité humaine. Nous dérivons petit à petit, nous avons besoin de nous resituer dans le bon axe. Et enfin, le dernier point, par rapport à cette dynamique, c'est la persévérance. Il y avait ce texte de Romains 5 aussi qui a été lu sur la persévérance. On ne l'a pas fait exprès, mais il se trouve qu'il y a plein de connexions entre ce que Daniel nous a lu et ce que j'ai préparé pour ce matin. La persévérance. Persévérer dans la foi, et persévérer dans la communion, et donc cultiver la communion, comme on l'a dit avant. Persévérer. Ça ne tombe pas du ciel, nous. Mais si nous investissons dans la recherche de la volonté de Dieu, si nous investissons dans la communion avec lui, alors nous récoltons aussi des fruits de cela. Et persévérer aussi dans ce que Dieu attend de nous concrètement, rechercher ce que Dieu attend de nous concrètement en tant qu'Église et en tant que personne. Dieu nous a conduits en 2017. Il y a eu des étapes importantes en 2017. Dans la vie de Salomé, il y a eu une étape importante parce qu'elle a été baptisée. Dans la vie d'Élisabeth, puisqu'elle est partie. Dans notre vie communautaire, puisqu'il y a eu la consécration des anciens et de Marie-Noël comme enseignante. Et donc voilà, il s'est passé des choses. Nous avons cueilli des fruits de ces changements. Eh bien, nous pouvons dire merci beaucoup, puis on reste assis, on est content. Puis en même temps, on peut se dire, et c'est important de le faire, mais en même temps, de garder cette idée que, et maintenant, qu'est-ce que Dieu met devant nous ? Qu'est-ce que Dieu met devant nous ? Et je pense que nous avons besoin de prier pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut mettre devant nous. Ça ne veut pas dire que c'est... Il y a des années où il y a beaucoup de changements, des années où il y a peu de changements, visibles, j'entends. On n'est pas obligé d'être dans le changement permanent et dans la nouveauté permanente, c'est pas ça. Je crois pas que ça soit juste. Mais en tout cas, d'être disponible devant Dieu en train de lui dire, et de lui dire, Seigneur, qu'attends-tu de nous aujourd'hui ? Conduis-nous aujourd'hui. Quelle est ta volonté pour nous en 2018 ? J'ai entendu parler d'une église à Mulhouse. Fin septembre, début octobre, ils ont une semaine de prière. Ils ont une semaine qui est centrée sur la prière, sur une prière qui est de l'ordre du qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans la nouvelle année scolaire. C'est pour eux le centre, pendant une semaine ils sont centrés là-dessus, de manière particulière. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'avoir des moments comme ça où on se donne plus spécifique. Parce qu'on ne peut pas non plus le faire tout le temps, mais des moments spécifiques où, en début d'année scolaire, ils prient pour que Dieu les conduise et leur montre ce qu'il attend de nous. Dans le Notre Père, les trois premières demandes sont centrées sur la volonté de Dieu, sur son règne, sa volonté, son nom. Et je suis surpris, chez moi aussi d'ailleurs, de voir que je prie rarement pour la volonté de Dieu et que je prie beaucoup plus pour ce que moi j'ai envie, ou mes besoins, ou mes soucis, etc. Alors même que la prière de Jésus nous invite à demander d'abord à Dieu ce que lui veut et quelle est sa volonté. Et je pense qu'il faut le faire avec foi. Parfois, on a peur que Dieu nous demande des choses trop compliquées, trop difficiles, trop ceci ou trop cela. Je ne sais pas pourquoi ça traîne dans nos têtes, mais quand j'accompagne des gens, j'entends régulièrement ce truc. Ah, si je donne ma vie à Dieu, ou si je me confie complètement à Dieu, il va me demander des trucs trop compliqués, ou des trucs que j'aimerais pas faire, ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi ça traîne dans nos têtes. C'est une fausse image de Dieu. Dieu nous accompagne. Il nous conduit, il le fait à son rythme, mais il le fait aussi à notre rythme. Il respecte notre capacité à cheminer avec lui. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui ouvrir grand nos portes et de l'inviter à venir chez nous, parce que lui, de toute façon, il va nous respecter. Et il va tenir compte de qui nous sommes et de la personnalité qui est la nôtre, etc., etc. Donc, pas de souci pour être disponible devant lui pour l'année 2018, pour nous, pour nos familles, notre communauté. Voilà. Et donc je vous invite à être dans cet état d'esprit de temps en temps, de rechercher cette volonté de Dieu et d'être ouvert à sa personne et, comme dit l'Apocalypse, de lui ouvrir la porte pour qu'il vienne manger avec nous. Amen.